Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous invitons tous les jours à 11h à plonger dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Grandes figures littéraires, grands penseurs ou grands personnages historiques, bienvenue dans toute une vie.
Alors là, un peu en vrac, on a des choses de la première partie de sa carrière. Il y a eu une longue tradition d'adaptation des histoires de Charlot. Au début, adaptation, puis ensuite création à partir du personnage de Chaplin, Charlot, qui était publié avec divers dessinateurs. Et Forrest en a fait pas mal. Et sur scénario de Montaubert, qui était par ailleurs le scénariste des Pieds Nickelés, et sur certaines histoires sur ses propres scénarios à lui.
C'est quelle époque ?
C'est les années 50, ça. Oui, et moi j'aime bien, je trouve ça vraiment, il y a une pêche quoi, il y a beaucoup d'énergie, puis c'est fait avec légèreté, mais c'est fait aussi il s'est placé quoi, il y a rien à faire. Ce qu'il arrive à faire avec cette échelle là, dans cette page, c'est quand même pas mal.
Mais personne ne peut les voir aujourd'hui.
C'est plus réédité, non.
Mystérieux matin, midi et soir, Jean-Claude Forrest. 1930-1998. Christian Rosset, Doria Zénine.
C'était un homme assez petit, mince, un peu fouté moi quand je l'ai connu, avec une moustache, assez nerveux, vif. En interview justement avec des questions, c'était quelqu'un qui était vraiment à l'écoute et qui n'était pas en pilotage automatique. Hein. Il essayait vraiment de répondre à la question, il essayait de suivre une idée, d'apporter des choses. Ça m'avait frappé.
D'abord, je vais vous montrer quelque chose. Un petit trésor de Foresta.
Quetch Bousset-Lobe.
Bon, je pense que vous identifiez le personnage.
Oui, c'est Barbarella.
Voilà, c'est le cadeau que Forrest m'a fait pour la naissance de ma fille. Je trouve ce cadeau magnifique. Barbarella qui montre le bébé.
Et c'était quelle année ?
C'était en 78.
78. Vous le connaissiez déjà ?
Oui, je l'ai connu dans les années 72 à peu près, en même temps que Jacques. C'était son grand ami. Donc je pense que j'ai connu le début des années 70.
Jacques Loeb.
Jacques Loeb, bien sûr, Jacques Loeb. Oui. Pour moi, c'est évident, il faut peut-être préciser Jacques Loeb.
Bonjour.
Ah bah ça va, c'est parfait. Je suis très équipé, l'arme en avant, l'arme au coin.
Bon, alors je suis Jean-Claude Forrest, je suis auteur et dessinateur de bande dessinée. Voilà. On peut entrer dans les détails, je peux citer quelques-unes des bandes dessinées récentes. Par exemple, ici même, dont je n'ai été que le scénariste avec... Comme dessinateur tardi. La jungle fantôme, vu de l'orchestre que j'ai écrit et dessiné. Récemment, Enfant, c'est les dragons qui passent, qui est le premier volet d'une série qui comprendra, j'espère, plusieurs volumes. Que là, j'ai écrit et dessiné. Et puis, qu'est-ce qu'on peut citer ? Bon, on peut citer Barbarella aussi, qui date d'un peu plus de 20 ans. Puis d'autres choses, bon. Il y a eu le personnage d'Hypocrite, très très important pour moi, dans la mesure où il me semble que c'est la seule bande dessinée où j'ai eu du style graphiquement. Enfin, j'ai eu un style graphique affirmé et personnel. Hein, c'est. Voilà.
C'est quelqu'un qui est né en 30, donc qui a grandi.
Le 11 septembre.
Ouais, le 11 septembre.
Jean-Pierre Mercier.
Et qui a grandi à l'époque où il y avait beaucoup de journaux de bande dessinée pour enfants, qu'il était fan de ça, qu'il était fan de littérature. Pour une raison biographique qui est connue et qui a été extrêmement importante pour lui, c'est que c'était un enfant qui souffrait d'asthme, mais de façon extrêmement forte à l'époque, et qui donc a passé beaucoup de temps, les exercices physiques, le sport et tout ça, c'était pas pour lui. Et donc, il est devenu un lecteur absolument forcené de tout, et il avait une passion pour la lecture. Alors, pour la bande dessinée, il a à peu près tout lu, je crois, avec une grosse passion pour la BD américaine, ce qu'on appelle les classiques de l'âge d'or, c'est-à-dire Mandrake, Le Fantôme, Prince Vaillant, Flash Gordon, enfin toute cette grande période-là.
Ce n'est pas un franco-belge.
Pas trop. Et c'est aussi un grand lecteur de toute la littérature feuilletonesque. Il a rendu hommage à Verne dans un de ses bouquins, Mystérieuse matin, midi et soir. C'est son hommage à l'île mystérieuse, que moi je tiens pour un des sommets de son œuvre d'ailleurs. Il adorait toute cette forme feuilletonesque. Et je pense que c'est son grand fantasme, c'est d'arriver à raconter une histoire qui ne s'arrête jamais.
Ce qui est frappant, c'est le fait que, manifestement, Jean-Claude Forest avait une foi dans les possibilités de la bande dessinée qu'il
Thierry Grunstein
concevait d'emblée comme une forme artistique achevée et dans laquelle il était possible de faire œuvre d'auteur. Et que cette fois, elle s'est manifestée aussi par un engagement de sa part dans le militantisme bédéphile de la première heure qui s'est construit au début des années 60, à une époque où, somme toute, il était sur le point de créer Barbarella, mais était encore un quasi inconnu.
La bande dessinée, d'abord, je crois que c'est pour des raisons tout à fait indépendantes de ma volonté, qui tiennent à mon enfance, au fait que je suis né en 1930 et que j'ai donc été baigné...
Jean-Claude Forest, juin 1985.
J'ai baigné dans la bande dessinée américaine de l'âge d'or. Quand on lisait les bandes dessinées américaines dans les années 30-35 jusqu'à 40, et puis ensuite pendant 4 années de guerre, on se nourrit de ce qui s'est accumulé dans les placards. On peut pas l'oublier. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né le club des bandes dessinées avec Francis Lacassin et Alain Resnais, par exemple, ou des gens comme ça. C'est par nostalgie de cette époque-là. Donc voilà pourquoi j'ai fait de la bande dessinée. Bon, en ce qui me concerne, moi, c'est que, encore une fois, le fait que mon adolescence s'est déroulée pendant la guerre, que j'étais très souvent malade, ça se retrouve très souvent chez moi ou au lit, que pour des raisons familiales, je n'ai jamais été à l'école, pratiquement, peut-être en tout 2 ans, mais pendant la guerre, c'est-à-dire entre les alertes, ma culture était limitée à ce que je trouvais. Et la seule chose qui m'arrivait de manière régulière, c'était la bande dessinée. Et puis, bon, toute la littérature populaire et la littérature destinée à la jeunesse, bah, c'était Jack London, c'était Stevenson, c'était des gens comme ça, c'était Jules Verne, évidemment. Bon. Alors, je crois que là, c'est très simple, le mécanisme, il est même pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai tellement eu plaisir à lire en fait, ces histoires-là, que lorsque je suis arrivé à l'âge où on passe à l'acte, où on se trouve de l'autre côté, du côté des consommateurs, mais du côté de ceux qui produisent, qui créent les choses, j'ai voulu prolonger mon plaisir. Et je me suis mis tout naturellement à écrire, à dessiner des bandes dessinées. C'était épouvantablement mal fait, mais c'était le seul moyen que je maîtrisais, enfin que j'avais le sentiment de maîtriser. Évidemment, je rêvais de faire du cinéma, évidemment, je rêvais d'écrire des bouquins. On a des tas de rêves adolescents, et puis ça se réalise plus ou moins par la suite. Mais voilà comment j'ai fait de la bande dessinée d'abord.
On s'est rencontrés, mais assez brièvement. Si ma mémoire est bonne, ça devait être en 1975. C'est à l'époque où moi j'étais assez associé avec Glénat à ce moment-là et où Glénat a lancé Circus et a lancé une petite collection qui a réédité Bébé Cyanure. Et donc il y avait une petite librairie qui a pas duré bien longtemps que Glénat avait ouverte dans le Marais. Et je m'en suis occupé pendant 2 mois et demi avant de foutre le camp. Et Forrest et beaucoup d'autres gens passaient, des auteurs. Moi, à ce moment-là, puis il y avait encore, c'était le moment des cahiers. C'était pas très longtemps après le numéro des cahiers de la bande dessinée sur Forrest. Donc Forrest avait lu le dossier, avait lu les textes. Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, mais très brièvement. Je me souviens juste du fait qu'il les ressemblait pas tellement à un auteur de bande dessinée, enfin en tout cas tel qu'ils étaient à cette époque-là, qu'il avait l'air toujours assez pressé, un peu fébrile, un peu distant aussi, et en même temps il se plaignait un peu déjà des gens qui écrivaient sur la bande dessinée. Je me rappelle très bien de ça parce que c'est presque le seul souvenir concret que j'ai, parce qu'il est complètement égocentré et il me concerne directement. C'est que il disait oui, enfin bon, tous ces gens, en fait ils ont pas grand chose à dire, etc. Je dis bon, ben moi je suis désolé. Il me dit ah mais toi c'est pas pareil, toi tu es un poète.
Je suis la femme de Jacques Loeb. Quetch Bousselob. Donc Jean-Claude, je l'ai rencontré bien sûr par Jacques. Je pense que c'est une des premières personnes dont il m'a parlé parce que c'était un peu la personne de référence. Pour lui, c'était un grand maître de la BD, c'était aussi un ami. Je pense qu'il l'avait rencontré à Chouchou quand il était allé proposer du travail à Chouchou. Et c'est Forrest qui l'avait marié entre guillemets avec Pichard. Et ils ont fait ensemble beaucoup de BD. Donc je l'ai connu d'abord de réputation, après je l'ai connu dans sa vie privée. C'était l'époque où il vivait avec Dany Dubos au Faubourg Saint-Antoine, dans ce magnifique atelier où il bricolait des tas de choses. Je me souviens une fois, il y avait une fuite au plafond. Forrest avait organisé tout un système pour récupérer l'eau et l'amener directement dans ses plantes vertes. Ça donne assez l'idée de ce qu'était le personnage. Comme ça, très, très bricoleur, très. Par exemple, au Faubourg Saint-Antoine, il connaissait tous les gens qui s'occupaient des meubles. On allait avec lui chercher du brou de noix, des tas de choses. Il connaissait tous les gens du quartier. Donc, c'est le quartier à l'époque des ébénistes.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement, Jean-Claude Forrest, Quetch Loeb?
Alors, physiquement, il était assez mince, un peu frisé, oui, un peu frisé, plutôt assez élégant. Et que vous dire encore?
Ses yeux.
Ah, ses yeux, ils étaient clairs, mais je ne sais pas de quelle couleur. Il me semble qu'il avait les yeux clairs, un regard assez perçant. Mais un regard, assez, je dirais même, assez malicieux, assez observateur, assez malicieux.
Il n'avait pas une moustache par hasard?
Je crois bien que si, qu'il avait une moustache, oui. Mais à l'époque, ils avaient tous des moustaches.
Ce qu'il y a pour moi très fort avec lui,
Jean-Pierre Mercier,
c'est qu'en gros, quel que soit l'univers qu'il essaye de développer dans une série donnée, bon, il y a des exceptions, mais on retrouve quand même toujours en gros les mêmes idées fixes, les mêmes obsessions, les mêmes choses qui reviennent. Il y a des formes.
On peut les nommer, ces obsessions?
Le temps, la mort, la distance, plus pratiquement la question de l'amour, la question de l'adolescence. Et puis il y a des formes comme ça qui reviennent tout le temps, le labyrinthe. Il y en a partout. Il y a des labyrinthes dans Barbarella, il y en a dans Ici même, il y en a dans Le Monde Choufou. On va retrouver des labyrinthes absolument partout. Le jeu sur les mots. Il est tout le temps là-dedans. Et c'est une chose aussi qu'il faut. Moi, c'est pour ça que j'ai une fascination pour Forrest, c'est que c'est un fabuleux dessinateur. Et on ne le dit pas assez, c'est un type qui a un trait de pinceau absolument inouï, d'une élégance incroyable, mais c'est aussi un homme de texte dans la bande dessinée, un dialoguiste incroyable.
Parmi les auteurs de bande dessinée de sa génération, il est sûrement un des tout premiers à aller du côté de la littérature et en particulier de ce qu'il y a de spécifique même dans la poésie à ce moment-là, enfin je trouve.
Je dirais que c'est certainement l'un des premiers à avoir fait de la bande dessinée d'auteur. Je veux dire une bande dessinée qui soit pas une bande dessinée de genre, qui soit pas une bande dessinée de pur divertissement, mais qui soit une bande dessinée lui permettant de donner forme à ses obsessions, à son imaginaire, sans se censurer et sans trop se poser la question du public. Ça s'est manifesté très tôt, puisque dans les pages de Vaillant, il a créé ce personnage qui s'est appelé le copyright, puis le copyright, qui était un animal imaginaire, comme le marsupilami ou d'autres. La bande dessinée en a proposé à foison. Et je pense que son inspiration venait plutôt de Segar et de Popeye, où il y avait cet animal qui s'appelait le Jeep. Mais le copyright n'a connu qu'une existence assez brève. C'était du nonsense dans la continuité de Lewis Carroll, dont Forrest était un lecteur assidu. Et Mandrika a souvent répété par la suite que le concombre masqué n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le copyright, qui a été véritablement l'étincelle qui lui a permis de trouver lui aussi cette voie-là, enfin de comprendre que la bande dessinée, ça pouvait aller dans cette direction-là.
Pour moi, c'est un dessinateur prodigieux, vraiment, mais qui n'aimait pas le dessin, qui n'aimait pas son dessin, qui avait beaucoup presque de mépris. Moi, je me souviens, quand j'étais allé chez lui pour les interviews, les originaux traînaient par terre. J'étais assez surpris. Ça n'avait pas la valeur que ça a aujourd'hui, mais enfin, ça avait quand même un certain prix, quoi. Enfin, même symbolique. Enfin, c'était, et il avait l'air de s'en ficher, mais complètement.
Chez Forrest, il y a toujours une hésitation entre le sérieux et le
Yves Dimano,
une espèce de côté satirique, si on peut dire, enfin, qui est pas vraiment, c'est pas vraiment drôle, mais il y a beaucoup d'éléments un peu comiques quand même qui interviennent et qui désamorcent le sérieux que pourrait avoir l'histoire, enfin qui dédramatise en tout cas. Il y a toujours des personnages un peu grotesques, des personnages secondaires, enfin comme ça. Et puis il y a beaucoup de jeux de langage, enfin beaucoup de choses comme ça qui. Alors donc, Mystérieuse Matin, Midi et Soir avait un côté très très parfait à ce moment-là, comme objet fini. Mais quand quelques années plus tard, il y a eu d'une part la Jonque Fantôme vue de l'orchestre, et puis juste avant ça. Parce qu'il faut quand même pas oublier d'inclure cette œuvre majeure dans la bibliographie de Forrest, ici même, qui est certes dessinée par Tardy, mais qui est vraiment une œuvre de Forrest de bout en bout. Jamais Tardy aurait écrit une histoire pareille à lui tout seul. Je veux pas être médisant à son propos, mais enfin, c'est vraiment une œuvre qui appartient à l'univers de Forrest et qui était, alors là, ça a commencé de paraître, si ma mémoire est bonne, dans À Suivre, dans le premier numéro de À Suivre, et c'était presque emblématique à ce moment-là de. C'est une immense histoire qui fait 160 planches, quelque chose comme ça. Et. On peut dire que à ce moment-là, on n'avait pratiquement jamais vu. Enfin, s'il y avait eu la Ballade de la mer salée quelques années avant, mais qui était même pas encore parue en France à ce moment-là, on voyait apparaître pour la première fois des récits très longs en bande dessinée, qui étaient plus du tout les albums, même de Black et Mortimer. Enfin, on était dans autre chose. On avait quitté la littérature pour enfants pour le coup. Là.
Juin 1985, Jean-Claude Forrest.
J'ai toujours vécu dans un univers de frustration. C'est-à-dire que j'en ai jamais assez. On m'en donne jamais assez. Il y a toujours un manque de surprise. Alors, premièrement, dans mes histoires, je m'efforce de les construire et de les découper de telle sorte que celui qui lit la première page ou feuillette l'album ne sache pas à l'avance comment ça va se finir et par quel cheminement on va arriver à la dernière page. Pour ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il est vrai que quand je raconte une histoire, elle se situe sur plusieurs plans. Pourquoi ? Parce que dans mes lectures d'enfants, je vais citer un titre et un auteur, il y avait toujours quelque chose qui manquait. C'est comme si je me disais, on me cache des choses. Alors, j'essaie aujourd'hui de les amener en surface, au moins partiellement, pour qu'elles suggèrent au lecteur une lecture plus profonde ou bon. Alors, ce que je voulais citer, c'était simplement Jules Verne, et en particulier L'île mystérieuse, qui pour moi était ma Bible, enfant et adolescent. J'en ai fait une adaptation d'ailleurs en bande dessinée qui s'appelait Mystérieuse matin, midi et soir. Or, dans L'île mystérieuse, au fond, on dit maintenant, ce serait le non-dit qui peut-être me fascinait le plus. Et il y avait des manques, par exemple le manque de présence féminine me gênait déjà. C'est un étrange vide. Moi, dans ma bande dessinée, j'ai placé une fille, évidemment, c'était une nécessité presque organique, je dirais, dans mon récit. Et puis, il me semble que des choses auraient pu être suggérées dans le récit. Jules Verne aurait pu évoquer, enfin plutôt placer dans la bouche de ses personnages, des réflexions qui ne soient pas directement et uniquement liées à la situation présente. C'est-à-dire des réflexions ayant un caractère un peu plus vaste. Ou même des réflexions de caractère fantasmatique qui auraient donné des indications plus aiguës sur les personnages et le sens qu'ils attribuaient à la situation dans laquelle ils se trouvaient. C'est un peu tout ça, c'est un peu ce que j'essaie de placer dans mes histoires. Et comme ce qui est à l'origine de mes idées, finalement, ce sont des fantasmes qui arrivent spontanément, et je ne sais, dans un premier temps, je ne sais pas quoi en faire. Alors, c'est des notes, ce sont des fantasmes ou généralement des réactions fantasmatiques ou des jugements portés à partir d'une situation qui m'a agressé. Bon, en fait, c'est le résultat d'un réflexe de défense. J'ai eu peur, j'ai eu mal, etc. Il me vient une idée qui est un fantasme dans lequel je me réfugie pour être moins mal ou pour simplement trouver un sens à ce qui vient de m'être affligé et qui me paraît illogique, absurde. Bon, alors tout ça, je le note sur un bout de papier et je le mets dans un tiroir. Et quand vient le moment de mettre sur pied une histoire, soit parce que on me le demande, soit parce que j'éprouve le besoin de mettre au point un nouveau sujet, je rassemble un grand nombre de notes, je cherche une idée dominante, une idée mère, et puis, à partir de là, les autres idées qui viennent nourrir cette première idée. Et en fait, les structures des récits se font presque toutes seules, se définissent presque toutes seules. Et je me suis dit que, au fond, ce qui fait la cohérence de l'univers de l'individu, c'est la force et la densité de ses obsessions. Finalement, on a tort de s'inquiéter, on est toujours cohérent. C'est l'impression que j'ai en ce qui me concerne, en ce qui concerne les autres. On se dit, on va plus avoir d'idées, ce qui est une erreur, on a toujours des idées. Où on n'en a jamais eu, ce qui est autre chose, c'est la même chose. Et de toute façon, ça se tient. Ça se tient du fait qu'il y a une obsession dominante qui est une sorte de squelette qui assure, en somme, la cohérence générale.
Il avait beaucoup de charme, il paraît.
J'ai cru que vous alliez me demander s'il avait beaucoup de chats, mais il avait beaucoup de chats, mais toujours des chats. Il y avait toujours des chats chez lui, au moins deux, trois chats. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui avait beaucoup de charme parce qu'il était passionnant à entendre. Et puis, c'est quelqu'un qui avait l'art de créer son univers. C'est-à-dire que vous l'invitiez chez vous, il avait une chambre, vous repassiez un quart d'heure après, il avait modifié les choses, refait son décor. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait cette magie, comme ça, d'être bien là où il était.
Il était il avait été très malade durant son enfance. Il dit même qu'il n'a jamais eu vraiment d'enfance. Il avait passé essentiellement couché avec une forme d'asthme assez grave. Il était presque un peu un double survivant de ça et aussi de la guerre. Et il donne l'impression dans ses bandes d'une énorme énergie. Est-ce que vous voyez le Forest comme étant
Je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, comme une sorte de rescapé. Effectivement, il avait toujours ses problèmes d'asthme. Mais ça faisait tellement partie de lui qu'on se rendait pas vraiment compte qu'il avait ça. Et à côté de ça, il avait eu une très forte énergie, c'est-à-dire qu'il avait toujours des projets. Il avait toujours des projets, par exemple, ça pouvait être des fois d'aller d'aller acheter une maison à la campagne, d'aller chercher, s'il avait entendu... Je sais qu'à une époque, ils avaient l'idée comme ça d'aller chercher quelque chose en Italie, des... je sais plus, des choses qui avaient été abandonnées, ou des fois ça pouvait être d'aller chercher sur une décharge, des sculptures, des choses qui avaient été jetées. Il avait toujours eu beaucoup d'énergie, bien qu'effectivement il souffre toujours de l'asthme.
Pourquoi est-ce que Barbarella a été considérée comme un personnage sulfureux à l'époque? C'est pas pour l'érotisme qu'il y a dedans, on voit à peine un bout de sein, enfin il y a très très peu de choses, mais c'est, moi je pense, enfin je suis pas le seul à le dire, mais c'est parce que c'est un personnage complètement libre. C'est elle qui décide, elle va de planète en planète, c'est elle qui décide de ce qu'elle fait de sa vie, et en particulier c'est elle qui décide de qui vient dans son lit. Et il y a le célèbre épisode avec le robot Victor qu'elle finit par mettre dans son lit, et donc il y a une jolie ellipse. Et puis on la voit allongée, qui a l'air tout à fait contente, et puis Victor qui est à côté, puis elle dit « Victor, vous avez du style ?» Et Victor répond « Oui, merci madame, je sais que mes élans gardent toujours quelque chose d'un peu mécanique. » Ce que je trouve personnellement absolument formidable, c'est extrêmement drôle. Donc il y a ce second degré déjà dans l'œuvre. Voilà. Et puis il y a aussi le personnage de l'archange aveugle qui est formidable. C'est très très beau. C'est... voilà. Pourquoi l'as-tu sauvé? Un ange est sans mémoire. Et cette case-là, elle est...
Barbarella est un personnage qui apparaît non pas dans une revue de bande dessinée, à proprement parler, mais plutôt dans un magazine polisson, hein, d'érotisme soft, qui s'appelait V Magazine, dans lequel, du reste, il y a eu d'autres bandes dessinées, comme Scarlet Dream de Gigi et Molly Terni, des séries de Pichard.
Thierry Grunstein.
Mais il fait œuvre de pionnier, à la fois en amenant la bande dessinée donc dans un support où jusque-là elle n'était pas présente, et donc par là en trouvant un nouveau lectorat. Et puis ensuite, à nouveau, lorsque Barbarella est publié en album, c'est l'album qui inaugure la production d'Eric Losfeld en 1964. Eric Losfeld qui rétrospectivement nous apparaît comme l'éditeur qui a fait du roman graphique avant la lettre, enfin avant que cette expression ne fût inventée, hein. Et donc ce livre à tous égards était complètement atypique dans la production de l'époque. Et enfin, bien sûr, quand on regarde le contenu, hein, de Barbarella, le personnage, l'univers dans lequel elle se meut, là encore, on se trouve face à quelque chose qui échappe complètement à tous les stéréotypes de genre de la bande dessinée enfantine des années 60.
Barbarella, garde tes bottines et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes, ou sinon... je te renvoie à ta science-fiction.
Mon père était un fanatique de Forrest. Ça fait partie des quelques trucs que j'ai vraiment complètement piqué à mon père. Et de toute façon, une affiche de Barbarella était tout le temps dans l'appartement. Donc, en gros, j'ai l'impression que j'ai découvert Barbarella en ouvrant les yeux pour la première fois, quoi. Donc, c'était Barbarella, c'était ma nounou. Donc du coup, c'est venu progressivement, mais en apprenant les bandes dessinées ça a dû commencer avec Hypocrite. Ça a dû commencer avec Hypocrite parce que c'est ce qu'il y a, même qu'il y a de plus enfant, c'est là où il y a le moins de sexe, quoi. Mais j'ai le souvenir quand même de très tôt enfant avoir été passionné par Enfance et les dragons qui passent. Et que c'était un peu celui qui m'avait le plus marqué, presque sur un mode de, comment dire, de projet de vie, quoi, ou projet magique.
En fait, moi, j'ai découvert Forrest tardivement par rapport à
Jeanne Puchol,
sa carrière à lui, à son âge à lui, mais relativement tôt pour moi, parce que je l'ai découvert dans Pilote, que je lisais quand j'étais adolescente. Donc je pense que je l'ai découvert avec Hypocrite, hein, comment décoder les tire-copies. Qui a dû paraître dans Pilote en 71, 72, par là. Donc moi j'avais 14 ans. Et je crois me souvenir qu'à l'époque, c'était surtout son style d'écriture, c'était surtout les qualités littéraires, en fait, de son univers qui m'avait complètement enchanté. Enfin, c'était, voilà, le mot enchanté, je crois, traduit bien ce que je pouvais ressentir. Ce qui m'avait plu, c'était l'univers et l'incroyable poésie de son écriture. Tu vois, les trouvailles, la fantaisie... l'ironie, en même temps une sorte de lyrisme, enfin voilà, quelque chose de très complet et qui n'avait pas d'équivalent en bande dessinée, même dans ces années-là, qui était pourtant extrêmement créative. Dans le cas de Forrest, malgré un fond classique, parce que c'est un dessinateur qui vient, on sent d'ailleurs les années 60 hein, dans son dessin, un certain classicisme des années 60, bon, qui me touche parce que ça fait aussi partie des choses qui m'ont fabriqué moi-même en tant que dessinatrice. Et il met là-dessus une espèce de liberté dans le trait, de fougue. Et bon, dans les deux hypocrites en couleur, c'est vraiment flagrant, avec ce trait au pinceau qui est à la fois structuré. On sent vraiment la très bonne connaissance de l'anatomie, de la perspective, et qu'en même temps une manière de procéder qui était alors très très spectaculaire, enfin assez inédite, hein, dans le style des dessins qu'il y avait par ailleurs dans Pilote.
C'est un libérateur, Forrest ?
Ah bah oui. Forrest libère la femme, la jeune fille, l'hypocrite, enfin il libère tout le monde, quoi. Les mangeurs de viande, je dis ça parce que c'est le sujet ô combien prophétique du deuxième volume, enfin du troisième, hein, mais de la deuxième des histoires d'Hypocrite parues dans Pilote, qui à mon avis l'a amené à arrêter, parce que là je pense qu'il a complètement perdu son lectorat, qui est N'importe quoi de cheval, où Hypocrite tombe sur une bande de mangeurs de viande alors que c'est devenu totalement interdit dans toute la galaxie. Tu vois comme c'est marrant, parce que déjà en 70, dans les années 70, il anticipait la mode du végétarisme et du vegan, enfin que ça allait être la bonne manière d'être, de plus manger de viande, et elle tombe sur une planète de mangeurs de viande, enfin c'est complètement délirant. Donc oui, il était très libérateur. Bah, c'était ces années-là aussi qui étaient comme ça. Hein.
C'est quelqu'un qui essaye de faire bouger les choses. Alors ça va être la bande dessinée, mais avec l'érotisme, avec les mondes imaginaires, enfin la science-fiction. La science-fiction était, dans la presse pour enfants, en tout cas à l'époque, extrêmement mal vue.
Jean-Pierre Mercier.
On est là jusque dans les années 60. La presse est là pour la presse pour enfants. Elle est là pour faire des bons petits citoyens qui s'intègrent bien dans la société. Et il y a une grosse méfiance, en tout cas en France, des genres de l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique et des choses comme ça. On peut faire des aventures. C'est pour ça que Tintin a tellement de succès, c'est que c'est un monde très réel. C'est génial, mais c'est ancré dans une réalité. Alors que les mondes de Forrest, mystérieux matin, midi et soir, on aborde dans une île, et cette île, en fait, c'est un arbre géant. C'est inouï, ce truc. Et on dort sur des feuilles, l'arbre lui-même est un univers. Donner ça à lire à des enfants dans le journal Vaillant, alors là aussi, ça paraît dans le journal Vaillant, c'est son hommage à Jules Verne, mais il ne va pas pouvoir aller au bout, parce que la rédaction... les lecteurs comprennent rien, c'est bizarre, et il est obligé d'interrompre avant la fin. Et l'histoire paraîtra intégralement, mais en album, après.
Dans les hypocrites, en tout cas dans comment décoder les tire-copies, je pense que j'ai été sensible dans le texte à des choses qui me rappelaient Lewis Carroll, qu'il cite d'ailleurs de manière presque littérale. Il y a le vaisseau du docteur Alizarin qui s'appelle Jabberwock. Il y a beaucoup de mots tiroirs dans les dialogues. En plus, ça se passe dans une temporalité non définie qui semble être un futur, enfin une sorte de rétro-futurisme. Pas très bien défini, mais où il y a un langage. Enfin, donc il y avait un travail sur les mots qui m'a plu et qui, je crois, me plaisait parce que j'avais découvert Lewis Carroll, enfin Alice dans le texte intégral quelques années avant, et que tout le côté nonsense et jeu sur les mots m'avait parlé. Je retrouvais ça dans Hypocrite. Et si je parle de jeune fille plutôt que de femme-enfant, c'est que quelques années après, Et c'est aussi quelque chose qui va être extrêmement fondateur. Ce n'est pas une bande dessinée, c'est un film. C'est Céline et Julie vont en bateau. Et je retrouve la même, le même type de personnage. Tu vois, Hypocrite, c'est Juliette Berthaud dans Céline et Julie vont en bateau. Alors, est-ce que c'est la femme-enfant? Je crois pas. Hein. Pour moi, Juliette Berthaud, c'est pas du tout la femme-enfant. Enfin, on est dans une espèce d'enfance qui survit à tout. Qui survit à l'âge adulte, qui survit à la connerie ambiante. Et dans Céline et Julie, dont je sais que tu es aussi amateur que je peux l'être, et Rivette, le cinéma de Rivette d'une manière générale, je retrouve ça, c'est-à-dire quelque chose qui est... C'est pas que c'est déconnecté de la sexualité, parce que ça l'est pas. Hypocrite, on sent qu'elle aime beaucoup son copain Brisbise, qu'elle s'envoie peut-être en l'air avec un des mangeurs de viande de la planète, je sais plus quoi, là, dans N'importe quoi de cheval. C'est pas que c'est déconnecté de la sexualité du tout, mais c'est que par moment, c'est des personnages qui se ménagent des espaces d'enfance.
Il a des points communs énormes avec deux autres artistes et poètes que j'aime. Absolument, qui sont Nerval et Rivette. Et donc, il y a un truc que je trouve très, très commun à Forest, Nerval et Rivette. Hein. Et que ce soit, bah, de toute façon, ces héroïnes qui sont toutes des filles du feu, que ce soit ces mondes miroirs dans lesquels on passe, ces miroirs dans lesquels on traverse et dans lesquels il y a des histoires qui se répètent en boucle. Bon, on pourrait dire, il y a ça aussi chez Bioy Casares ou Méchin. Mais bon, c'est pas... c'est un univers aussi de perception et c'est une perception d'une magie qui pourrait être la magie émancipatrice. Alors, il y a plusieurs manières de montrer la magie et on pouvait dire grosso modo jusqu'au XXe siècle quasiment. À part Shakespeare, la magie a toujours été considérée comme une puissance négative, comme quelque chose dont il fallait se protéger. Donc c'était l'allié du diable, c'était la religion chrétienne ne supportait pas la magie évidemment, faisait concurrence. Et puis après, bon bah le rationalisme n'a que foutre de la magie quoi. Et c'est pour eux ça n'existe pas. Et alors il y a quelques artistes chez qui finalement elle est redevenue quelque chose de puissant et chez les poètes dans le 19e siècle. Et on trouve chez Rivette comme chez Forest de nouveau ce qu'on a appelé la magie naturelle. Et donc grosso modo, c'est les puissances d'affranchissement viennent de la récupération des pouvoirs magiques pour interrompre la magie négative des puissances mauvaises, quoi, et des puissances de guerre et de domination. Que ce soit dans La Jungle Fantôme vue de l'orchestre, que ce soit dans certaines histoires d'Hypocrite, que ce soit évidemment dans Ici même avec Tardy, on a une espèce de vision d'une machination du pouvoir terrible sur les individus, une espèce de pouvoir qui utilise tous les moyens de contrôle, de domination et des guerres qui sont des boucheries qui ne servent qu'aux industriels et tous ces trucs-là. Tout cet univers-là est chez Forest et opposé à ça, on a des espèces de figures à la fois d'errants, de fugitifs, d'exilés, de quasi-gitans hein, et qui vivent à la fois d'expédients qui sont dans la jungle fantôme vue de l'orchestre, qui fuient avec cette espèce de miroir, de fenêtre, la fenêtre qui donne sur ce théâtre magique là et qui est en même temps comme un fardeau et en même temps comme une puissance.
C'est une œuvre fantastique en fait, c'est une œuvre onirique, fantastique, c'est une œuvre qui est
Yves Dimano,
qui est un peu crypto-surréaliste d'une certaine façon dans l'époque où elle s'inscrit, c'est-à-dire à partir des années 60, je pense qu'il y a eu une idée, c'est pas pour rien s'il a fait tant de couvertures pour le magazine Fiction, pour des collections de littérature de science-fiction, les quelques collections qui existaient à l'époque. Je pense qu'il y avait une voie comme ça dans laquelle il est allé et qui sûrement a dérouté la plupart des gens. Parce que même Barbarella, c'est une histoire de science-fiction. Au fond, on a surtout gardé le côté emblématique d'une héroïne pour la première fois, enfin, quasiment pour la première fois, en tout cas en France. Bon, mais c'est quand même des récits de science-fiction. Il y a des personnages. Il a aussi fait le scénario des Naufragés du Temps, enfin au début, qui est une très très belle histoire de science-fiction. En tout cas, dans les deux premiers volumes, il y a vraiment une très belle idée, enfin, et très emblématique justement de ce fantastique, un peu surréalisant, avec l'histoire d'un amour, d'une union entre un homme et une femme à travers les siècles et quasiment les millénaires. Et bon, je pense que ça fonctionnait dans tout un contexte d'imaginaire de l'époque. Et c'est très visiblement quelque chose qui a dû dérouter les lecteurs de bande dessinée à ce moment-là. C'est une œuvre qui demande beaucoup à son lecteur aussi. Il faut participer à l'histoire. Enfin, il faut la reconstruire. Il laisse beaucoup de place à son lecteur, Forrest, ce qui est rarement le cas, enfin, surtout à cette époque-là. Et en même temps, ces histoires sont déroutantes, déstabilisantes. On ne sait pas très bien si elles sont inscrites dans la réalité objective ou dans un monde un peu fantasmatique. Parce qu'il y a des éléments réalistes, même dans celles qui se passent dans le présent, bah, par exemple, ici même. Hein, et en même temps, c'est une histoire totalement fantasmatique, enfin, d'une certaine façon.
Jean-Claude Forest avait une particularité en tant que scénariste, et à ma connaissance, il est le seul auteur de bande dessinée francophone à avoir travaillé de la sorte avec Edgar Pierre Jacobs, le père de Blake et Mortimer. C'est-à-dire que lorsqu'il concevait une histoire, il commençait par l'écrire sous une forme romanesque. Les premières versions des histoires de Forest, c'était une fiction littéraire, toujours, longue nouvelle ou court roman, mais en tout cas complètement écrit du début jusqu'à la fin, avec des descriptions, avec des passages dialogués, etc. Une forme qui se suffisait elle-même et qui aurait pu être publiée telle qu'elle. Et ensuite, il devenait son propre adaptateur. Et il découpait donc cette histoire qui se transformait en un scénario. Il le découpait pour le langage de la bande dessinée, en cases, avec des bulles, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la langue qui est celle de Forrest, celle qu'il utilise dans ses bandes dessinées, on perçoit une dimension littéraire beaucoup plus forte que chez la plupart de chez ses confrères. Et ça passe notamment par une utilisation très personnelle de la ponctuation. J'ai toujours été frappé par le fait que chez Jean-Claude Forest, il y a des tirets, des parenthèses, des points-virgules dans les textes de ses bandes dessinées, ce qu'on ne trouve pas habituellement dans chez les autres scénaristes. Et ça, c'est la marque d'une écriture littéraire. C'est comme si finalement il subsistait quelque chose dans ses scénarios découpés, illustrés, de leur origine, cette version romanesque dont je parlais.
Je pense que comme tous les auteurs, il a envie d'être lu par le plus grand nombre de lecteurs possible. Maintenant, je suis pas certain qu'il était capable de transiger sur ce qu'il avait envie de faire. Je pense pas que c'est quelqu'un qui aurait pu consciemment dire « bon, bah, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin ». Il prend son inspiration et puis il y va. Et à chaque fois, c'est cette espèce de truc où on part. Alors, il y a les noms des personnages sont complètement... Inouï aussi, il a une onomastique très spécifique, il a un univers très particulier. Et c'est, en tant que lecteur, soit on rentre dedans, soit on rentre pas. Moi, je me souviens de... Parce qu'il y a une histoire d'Hypocrite, celle qui se passe en Écosse, qui paraissait en strip dans François tous les jours. Pour des raisons qui sont trop longues et pas très intéressantes, moi, je pouvais lire François tous les jours, et je lisais donc tous les strips qu'il y avait à l'époque, Mandrake le magicien qu'il y avait dans François, et Hypocrite arrive. Et je lis ça, parce que pourquoi pas, c'est de la BD, je vais le lire. Et il m'a fallu, je sais pas, 15 jours, 3 semaines pour me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et au bout d'un certain temps, de me dire, ah, mais c'est vraiment bien. Et devenir complètement accro. Mais c'est le lecteur qui fait la démarche. C'est pas l'auteur. Alors, évidemment, c'est pas un truc complètement ésotérique, mais ces univers parallèles avec des personnages qui se dupliquent, qui se répondent, enfin, c'était complètement inouï. Et moi, il a fallu un petit temps d'adaptation. Donc je pense que c'est ce genre d'auteur. On va vers lui, c'est moins lui qui va vers nous que nous vers lui, me semble-t-il.
Quel regard Forrest porte sur les femmes?
Alors, je n'en sais...
Jeanne Puchol.
Je n'en sais trop rien. Par contre, moi, je sais quel regard je porte sur son personnage de jeune fille dans Hypocrite. Parce que les Barbarella, je ne les ai pas lues, en fait. Tu vois, enfin, je les connais mal, je connais que quelques cases. Bon, il me semble que l'érotisme dans Barbarella est plein d'esprit, hein, comme tout chez Forrest, finalement, est plein d'esprit. Donc, moi, en tout cas, dans Hypocrite, ce qui m'a parlé à l'époque où j'étais une adolescente, pas très bien dans ma peau, enfin, ce qui est un pléonasme, c'était justement ce personnage de jeune fille, on ne sait pas trop quel âge elle a, elle peut avoir 15 ans comme 20 ou 22, on n'en sait rien. Elle est impertinente, elle est drôle, elle est insolente, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'était un personnage identificatoire formidable, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la cellulite de Bretéché, dans laquelle qui fonctionnait plus en miroir parce qu'elle était moche, comme je me sentais moi-même moche à l'époque, revêche, grognon, faisant la gueule, etc. Bon, donc ça, c'était le côté le miroir caricatural avec quand même un fond de révolte, comme toujours chez Bretéché. Et il y avait Hypocrite, qui était le miroir flatteur. C'est-à-dire tout ce que j'aurais voulu être était là représenté sur la page, tu vois, avec son petit débardeur un peu sexy, tout ça, ses petites cuisses moulées dans son comment dire, son shorty, je sais pas comment, cette espèce de collant qui lui arrive à mi-cuisse, les bas noirs, le shorty rayé, enfin une espèce de tenue invraisemblable dont j'ai découvert par la suite aussi qu'il provenait du tout premier album.
Nous n'avons pas réussi à trouver Danny Dubos, qui est un peu disparu. Quel rôle vous lui donnez dans la vie de Forrest et dans l'œuvre de Forrest?
Danny, je pense que c'était... Alors, ce que je sais, c'est qu'il l'a rencontrée parce qu'elle était secrétaire de Chouchou.
Kouetch Bousselob.
Et je pense que c'est quelqu'un qui... Ils étaient vraiment à la fois en osmose et en déchirement, tout le temps un peu. Mais ils étaient très, très ensemble dans le travail, puisque Danny écrivait, elle faisait aussi les couleurs. Et je pense qu'ils étaient très, très, très... complémentaires, qui se stimulaient en plus les deux. Enfin, Danny surtout était quelqu'un de très encourageant, qui poussait toujours les gens à la création. Donc je pense qu'il y avait ce côté très créatif. Alors après, leur vie sentimentale était un peu compliquée, puisque Danny avait un enfant. Jean-Claude a eu un enfant avec sa femme quand il vivait avec elle. Donc là, je trouvais qu'elle avait été très belle grandeur d'âme. Elle avait très bien accepté Julien. Et après, oui, je n'ai pas très bien compris le déchirement, le fait qu'ils se séparent. Jean-Claude, il avait un côté très, très bohème, bon, là où il habitait. Je sais que ses maisons de campagne, je crois qu'à un moment, il avait acheté une maison dans la Creuse, il dormait sur du foin ou de la paille, je ne sais plus. Enfin, c'était dans cet ordre-là, lui, oui, beaucoup plus.
Avec une grande liberté, y compris de séduction.
Ah ben, je pense que de toute façon, c'était un séducteur. Après, je ne sais pas trop... Moi, j'ai toujours vu avec Danny, bon, puis après, je l'ai vu avec d'autres femmes, toujours à peu près des femmes du même âge, habillées en noir. C'est curieux, il avait un goût pour les femmes qui s'habillaient en noir. Je pense que c'était un grand séducteur. Oui.
On parle un peu de sa vie, on donne même quelques petits détails sur sa vie privée, mais c'est toujours lié à son œuvre. Son œuvre est vraiment liée à sa vie.
Ah bah, je pense que Barbarella, c'est Colette, que moi, je n'ai pas connue, hein, sa femme. Et puis, Hypocrite et Bébé Cyanure, c'est Danny. Alors après sa dernière campagne, je l'ai connue. C'est une fille intéressante aussi qui faisait de la sculpture. Petra, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, Petra Verlet. Donc là, je pense que c'est pareil. Il devait y avoir entre eux une assez belle complicité de travail avec Petra.
Pour moi, Juliette Berthaud, c'est vraiment une actrice très forestienne, quoi. Sa figure, elle est complètement forestienne. Et donc, on a ce truc chez Juliette Berthaud, c'est le côté Gavroche. Le côté Gavroche, le côté quelque chose qui vient de Victor Hugo, qui vient de ces figures-là, de ces figures populaires, poétiques, de ces enfants poétiques, et où on a cet accordéon, et on a ces filles qui sont des espèces de filles, on imagine, avec l'accent parisien, quoi. Et alors, tu viens, chérie. C'est des filles un peu comme ça, quoi, ces filles forestiennes. Et c'est mélangé à la fois à l'incroyable impulsion des années 60 et de swinging 60s, et donc le psyché qui vient à fond, l'Angleterre qui déboule à fond, la pop, les couleurs. Et à ça s'ajoute plein d'éléments. L'un d'entre eux, c'est, et je crois que c'est quelque chose qu'il écoutait à la radio, j'avais lu une interview où il disait qu'il écoutait sa radio, le théâtre, et en particulier les tragédies grecques. Et donc l'idée qu'il y a quand même une espèce de fond archaïque, tragique, qui revient toujours dans ses narrations. Il ne peut pas s'en empêcher. Donc il recrée la scène théâtral archaïque où on va dire il y a la machination, le Deus ex machina, les colères des dieux, l'hubris des hommes, les punitions, les orages, la destruction, les catastrophes, tous ces trucs-là se met à intervenir. La dimension politique et poétique, comme on a dans ici même la jonque fantôme vue de l'orchestre, avec quelque chose qui vient vraiment de la jonque fantôme vue de l'orchestre, on a l'impression que c'est mais quoi, un peu comme Fellini, il y a une espèce d'obsession des Balkans et de ce qui va se passer dans les Balkans. C'est comme s'il y avait une préscience ou une prophétie de la guerre de Yougoslavie.
La case bande dessinée, c'est-à-dire cet univers qui est immobile mais riche d'un mouvement potentiel, rappelle, est assez proche finalement de la scène du théâtre où, bon, il y a peu d'espace, il peut pas s'y passer vraiment beaucoup de choses, mais potentiellement il peut s'y passer énormément de choses. Hein. Il peut y avoir des événements considérables qui pourraient se passer sur la scène d'un théâtre, comme ils pourraient se passer dans une case de bande dessinée. Et néanmoins, ces deux cadres, en somme, finalement, sont fixes. Et alors qu'au cinéma, c'est tout différent, on peut déplacer le cadre.
Qu'est-ce que Jean-Claude Forest aurait fait de plus singulier, de plus étrange, de plus finalement, on va dire, hors temps, hors mode, hors tout ?
Le moment d'aboutissement et de le grand œuvre pour moi, c'est la jonque fantôme vue de l'orchestre, parce que là, il y a une, en plus, il y a une osmose parfaite entre la forme et le fond. C'est-à-dire, au niveau du dessin, c'est pour moi son meilleur album au niveau vraiment graphique. Il est parfait. Il est en plus, il travaille une matière ancienne. Il y a l'idée quand même de l'imagerie, un peu du roman feuilleton, des choses comme ça, qui est parfaitement adaptée avec le sujet. Et puis l'histoire est totalement étonnante. Enfin, je veux dire,
on peut la raconter l'histoire en deux mots.
Oh, elle est difficile parce que. Enfin, il y a d'abord le personnage principal qui, comme souvent chez Forest, est un jeune homme ou un homme très jeune. Enfin, il échappe à la mort pendant la guerre et rencontre ce réparateur de fenêtres qui, en fait, installe un spectacle à travers ses fenêtres. C'est une sorte de théâtre. Et petit à petit, les choses vont basculer. C'est-à-dire, il se passe quelque chose derrière ces fenêtres ouvertes. Enfin, bon, alors après, ça, il y a des quantités de développement. Mais c'est une histoire véritablement fantastique. Un peu à la Hoffman, finalement. Ça pourrait être un conte d'Hoffman, avec des, ces traités, comme les gravures, à certains moments, des gravures du 19e siècle. Enfin, bon. C'est aussi déroutant, par exemple. Moi, je lisais beaucoup des gens comme Bruno Schulz ou des gens comme ça à cette époque-là aussi. Et ben, ça a exactement cette étrangeté-là. C'est-à-dire que c'est réaliste comme ça, dans le trait, dans le déroulement narratif, si on peut dire. Mais ça débouche sur des territoires qui sont vraiment des territoires oniriques. Parce que je pense que le grand talent de Forest, c'est peut-être pour ça que ce livre-là est le plus emblématique, c'est un monde intérieur, un monde onirique, d'une très très grande singularité.
Si racontable, en fait, Forest.
En tout cas, c'est difficile à paraphraser, pour reprendre la formule de Roubaud, pour définir la poésie. La poésie, c'est ce qui n'est pas paraphrasable. Et bah, ça rapprocherait justement la difficulté à classer Forest quelque part. Et en tout cas, ça le rapproche, comme on le disait au début, d'une optique plus poétique, au sens large du terme. Hein. Je ne veux pas faire de confusion des genres non plus, mais enfin, je pense qu'il y a un état d'esprit qui le met beaucoup plus de ce côté-là qu'ailleurs.
Je pense qu'Hypocrite, je continue de la lire et je la lirai jusqu'au bout avec mes yeux de 13-14 ans, tu vois. Donc peut-être en gommant ou en refoulant, pour utiliser un gros mot, les aspects les plus sexués ou les plus érotiques ou les plus antiféministes, bien que je pense qu'il n'y a aucun aspect macho dans ce travail-là, hein, de mon point de vue. Aucun. Il y a un grand respect. Les personnages masculins sont tout aussi touchants, érotiques. Les hommes qu'ils dessinent, Forest, sont extrêmement attirant, quoi, que ce soit les vieux, les jeunes. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui met du désir partout, à mon sens. Dans les animaux, dans la manière qu'il a de dessiner l'eau. C'est organique, t'as l'impression que c'est une espèce de sculpture, quoi, de masse. Les animaux, il dessine magnifiquement les animaux, et les architectures aussi. Donc pour moi, voilà, il y a du désir partout, quoi. C'est le pur désir qui circule, Forest.
C'est un marginal.
C'était un franc-tireur, certainement. C'est quelqu'un qui a toujours évolué un petit peu dans les marges, même si, et ça c'est intéressant, on est venu le chercher à plusieurs reprises pour diriger des publications. Par exemple, les éditions Bayard, à un moment donné, lui ont confié la responsabilité de la partie bande dessinée dans Okapi. Et c'était quand même très curieux de faire appel à lui, qui était plus catalogué auteur de bande dessinée adulte, pour tout à coup prendre les rênes d'une publication destinée à l'enfance. D'ailleurs, il en a fait quelque chose d'hybride qui n'a pas véritablement trouvé son public. Mais voilà, je crois que son statut était véritablement reconnu comme étant celui d'un grand auteur, assurément, d'un défricheur, de quelqu'un qui avait posé des jalons importants dans l'essor de la bande dessinée moderne en France, et qui, en même temps, n'a jamais véritablement trouvé sa place nulle part, n'a jamais pu capitaliser sur aucun des succès auxquels son nom a été attaché, et était systématiquement déjà ailleurs.
Juin 1985, Jean-Claude Forest.
Je tiens dans mes histoires à ce que certaines situations soient parfaitement dérangeantes, dans le domaine sexuel par exemple, ou mais ça peut être aussi bien dans le domaine des sentiments. Il y a des sentiments dérangeants comme ça. Alors, ce que je crois, c'est que si on le systématise, ça n'a plus d'effet. Je crois que là, c'est une grande banalité, ce que je dis, c'est bien connu. Alors, je procède un petit peu comme, je dirais, on procède au karaté, c'est-à-dire je préviens pas, et puis d'un seul coup, je frappe. c'est-à-dire qu'il y a une image qui, d'un seul coup, est très violemment indécente, qui est peut-être considérée comme obscène. Et puis, la chose étant exposée, la chose étant dite, aussi violemment, aussi de manière aussi aiguë que possible, on passe à autre chose. De telle sorte que le trouble demeure et n'est pas le temps d'être récupéré par une suite d'images ou une extension de ces situations. Bon, c'est sur le plan pratique. Sur le plan personnel, il me semble que les grands moments d'indécence que j'ai pu connaître sont des grands moments d'existence. Et c'est un peu banal aussi que de dire tout ça. C'est-à-dire que plus on est soi-même bouleversé, plus on se dit qu'on est vivant. Et c'est une sorte de défi à la mort. On se dit au moins, là, en ce moment, ou pour ce que je vois, ou pour ce à quoi je participe, indiscutablement, je suis vivant. Hein. Je suis là. Ça ne se discute pas. Après ça, le reste devient flou. Il y a des jours où on se demande si on est vraiment vivant. Il y a des jours et des jours où il y a quand même un doute. Est-ce qu'on est vivant? Est-ce qu'on est mort? C'est pas clair. Alors que là, dans ces moments-là, comme dans les grands moments où on a peur, c'est sans équivoque.
Printemps fait l'oiseau, fleur de coquelicot, lierre. Tôt l'été venu, ce fruit défendu peut plaire. Car l'automne, il pleut à feuilles qui peut, ma chère. L'hiver est là qui le met déjà en terre. Pour Marie-Mathe, l'enfant sage, c'est l'oiseau quatre plumages.
Mystérieux, matin, midi et soir. Jean-Claude Forest, 1930-1998. Par Christian Rosset. Avec Kouetch Bousselob, Yves Dimano, Thierry Grunstein, Jean-Pierre Mercier, Jeanne Puchol, Paco Mthielman et Jean-Claude Forest, enregistré dans son atelier en juin 1985. Prise de son Yann Fressy, mixage Alain Joubert, réalisation Doria Zénine.